je te parlais en août de il faudra que je lance un tour de financement, que ça me fait vraiment peur, que je ne sais pas comment ça va se passer. Bah là, ça devient beaucoup plus clair et ça me fait beaucoup moins peur. Et voilà, donc ça c'est assez cool aussi. De toute façon, une fois que tu es à la bonne place et que toi-même, tu te sens bien, tu rayonnes ces choses-là et tu fais du bien aux autres êtres humains qui t'entourent.
Je suis Charlotte Desrosiers Natral et je te souhaite la bienvenue dans Pourquoi pas moi en chemin. Ils ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Je t'invite à suivre le changement de vie de personnes exceptionnelles qui sont passées à l'action et sont en pleine sortie de leur zone de confort. Nous suivrons leur avancement, leurs peurs, leurs doutes, leurs réjouissances et le rôle de leur entourage. J'aurai le plaisir de les interviewer tout au long de ce fabuleux chemin grâce à un épisode trimestriel où vous pourrez leur poser toutes vos questions. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co. En attendant, je vous propose un nouvel épisode de Pourquoi pas moi en chemin. Nous retrouvons aujourd'hui Nathalie Edlinger pour notre troisième rendez-vous. Quel plaisir de l'avoir cheminée. Si vous n'avez pas encore écouté les deux premiers rendez-vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour rappel, Nathalie est la fondatrice de Little Pop, une marque engagée qui habille nos enfants autrement. D'ailleurs, Nathalie vous offre un cadeau. 10% de remise sur votre première commande grâce au code Pourquoi pas moi, tout attaché. Je vous mets les liens sur le blog pourquoipasmoi.co. J'ouvre une petite parenthèse. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. C'est à chaque fois un grand moment de joie de vous lire. Allez, je referme la parenthèse et je vous dis à tout de suite dans l'univers de Nathalie Edlinger.
Bonjour Nathalie.
Bonjour Charlotte.
Je suis très heureuse d'être retrouvée aujourd'hui. Donc c'est notre troisième rendez-vous. On s'était promis la dernière fois de le faire ensemble à Marseille, mais bon, les événements ont un peu perturbé tout ça.
Ouais, malheureusement.
La dernière fois, on s'était dit que ce que tu nous racontais, c'était que ton enjeu là, ça allait être de prévoir la suite parce que ton chômage arrive à sa fin bientôt, à savoir en avril. Tu devais t'avais lancé la recherche d'un nouveau stagiaire alternant. Donc, c'était vraiment le début. Où est-ce que tu en es aujourd'hui?
Alors, on était en août, donc j'avais en effet lancé la recherche d'un nouveau d'une nouvelle stagiaire que j'avais trouvée et qui finalement m'a fait faux bond quelques jours avant d'arriver. De toute façon, quelqu'un de très sage m'a dit un jour les stagiaires, tu sais qu'ils sont arrivés le jour où ils sont là, parce que c'est quelque chose qui peut arriver malheureusement. Du coup, tant pis en fait. À ce moment-là, donc c'était pour un démarrage toute fin septembre. Donc à ce moment-là, moi, je me suis dit tant pis, j'ai pas envie d'aller trop vite dans la recherche de quelqu'un d'autre ou en tout cas de le faire en urgence. Donc je me suis dit que j'allais serrer les fesses pendant quelques mois et trouver quelqu'un pour le début de l'année 2021, soit ouais. Maintenant. Et du coup, j'ai trouvé quelqu'un, quelqu'un en alternance voilà, c'est quelque chose qui est un peu plus intéressant en fait pour Little Pop et aussi pour l'étudiant au final. Et donc ouais. c'est Samir qui nous a rejoint lundi dernier.
D'accord.
Et qui du coup va prendre en charge tout le marketing digital de Little Pop.
Super. Du coup, au final, c'est un profil plutôt parce que la dernière fois, tu cherchais quelqu'un potentiellement un peu plus axé mode entre guillemets. Donc là, finalement, tu as orienté ta recherche sur quelqu'un d'un peu plus digital.
Écoute, il a une formation donc école de commerce avec des expériences passées marketing digital et mode en fait.
Okay,
il a déjà travaillé pour un designer de maroquinerie au courant de l'année 2020,
ouais.
Pour lequel en fait il a fait des choses très similaires à ce que j'attends de lui là pour Little Pop. Donc finalement c'est hyper intéressant. Et au final il a un profil assez divers. Diversifié peut-être plutôt parce que il code aussi un peu lui-même, enfin il a aussi une très grande appétence pour tout ce qui est photo, vidéo,
génial, ouais.
Ouais, voilà, tous les univers graphisme, l'art en règle, de façon large, donc ouais. Donc c'est exactement ce qu'il faut, quoi.
Et comment tu l'as vécu du coup quand la personne t'a planté alors que bon bah voilà ça pour toi forcément c'était quand même un vrai soutien d'avoir quelqu'un ouais. Que tu l'avais vu avec Maëlys, ça avait été
ça avait
plus
été
de super, sérénité.
Ouais, c'est clair. Écoute, y a une partie de moi qui s'y attendait donc ça a été une demi-surprise. Et en fait, j'ai un peu pris le côté positif de tout ça en me disant en fait, ça va me permettre aussi de moi me focus complètement là sur les 3 prochains mois. En fait, je me suis dit, en fait, c'est très simple, je me pose plus de questions sur les 3 prochains mois. Je vais faire que bosser. La question, elle se pose même plus. Je vais tout prendre en charge. Je fais que bosser. Je me mets dedans à fond. Et du coup, ça va aussi sûrement me permettre de faire un peu évoluer le profil de personnes que je recherche pour ce stage et que j'ai une idée un peu plus claire d'ici 2 mois sur la personne dont j'ai vraiment besoin pour 2021. Ouais. Parce qu'en parallèle de ça, j'étais quand même aussi en train de beaucoup remettre en question les plans pour 2021 pour Little Pop. Donc voilà, donc ça pouvait...
C'était quoi le plan initial et qu'est-ce que tu remettais en question du coup ?
Bah, le plan initial, c'était une croissance assez forte. Donc, du coup, potentiellement l'embauche de personnes, un marketing digital, bien sûr, qui devait se densifier et devenir beaucoup plus fort. Mais en tout cas, on était sur une croissance extrêmement forte avec, du coup, des besoins en financement qui vont avec, vraiment dans un esprit start-up. Et ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à remettre beaucoup en question au cours de l'été. Du coup 2020 et que j'ai continué à creuser, à travailler là jusqu'à très récemment. Maintenant je suis à peu près sûre de la direction qu'on va prendre, j'ai dû passer par des coups de fil à certaines personnes, dont des personnes assez établies dans l'univers de la mode, lecture de beaucoup de cas d'école en fait d'entreprises dans l'univers de la mode qui sont lancées, qui ont fait appel à des forts financements pour mieux se planter derrière, voilà. Donc du coup, un peu de changement de stratégie entre guillemets, qui en fait impacte directement ce qu'on imagine en recrutement RH, en croissance de l'entreprise, en chiffre d'affaires, en tout en fait.
Et du coup, c'est quoi alors le plan, ce qu'on a le droit de savoir pour 2021?
Écoute, au lieu de partir sur une hyper-croissance en mode start-up, on part sur une croissance extrêmement raisonnée et raisonnable qui, en réalité, fait complètement sens avec les valeurs de Little Pop. Ouais. Donc, c'est vrai que quand j'ai commencé à penser à ça, c'est quelque chose qui m'a semblé très, très évident. Donc voilà, donc on prévoit une petite croissance quand même qui reste ambitieuse, mais qui va pas dans de l'hyper-croissance. Le but, c'est vraiment de solidifier ce qui a été fait en 2020, de consolider cette base Little Pop, avant de continuer après sur 2022 à nouveau une petite croissance, mais voilà, on reste sur quelque chose de très raisonnable. Bon, et après, on a d'autres petits projets, mais c'est un peu trop tôt pour en parler. Ce sera
pour dans 3 mois ou un peu plus, parce qu'on dit de rien. C'est vrai que j'avais oublié que quand on s'était vu, c'était quand on était en Corse ensemble sur notre terrasse avec le chant des cigales. C'est et ça. Mais en effet, on avait dû décaler pour plusieurs raisons, et puis avec Noël et tout. Nos 3 mois se sont un peu élargis, mais c'est pas grave.
Bon, en tout cas, j'espère que dans 3 mois, je pourrai parler de ces autres petites choses qui sont des projets hyper motivants et excitants. Ouais. Donc voilà, on verra ça à ce moment-là.
Et donc là, du coup, donc Samir vient d'arriver. Bon là, c'est un petit peu tôt pour en parler, j'imagine, parce que la dernière fois, tu nous disais que c'est pour toi ce qui était difficile, c'était de trouver ta place en tant que dirigeante de l'entreprise, que tu savais qu'il fallait faire appel à des compétences externes, mais que c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus facile et spontané dans le comportement entre guillemets humain. Comment ça se passe aujourd'hui tout ça?
Écoute, ça se passe beaucoup mieux. De toute façon, avec la revue un peu des objectifs de croissance de Little Pop, il y a aussi mon rôle qui a évolué avec ça. Donc clairement, je me suis dit qu'en fait, la personne qui allait me rejoindre, autant Maëlys, elle faisait du marketing et elle faisait aussi de l'opérationnel. Donc ça veut dire qu'elle aidait aussi beaucoup dans tout ce qui était la confection des mâles et tout. Là, Samir, je veux qu'il arrive pour faire que du marketing digital. Je veux qu'il soit focus là-dessus, à 100% dessus, qu'on ait des objectifs qui soient clairs, qu'après, il puisse travailler, proposer des choses et qu'on déroule les plans qu'on sera capable de définir à ce moment-là. Et moi, je continue tout l'opérationnel. Donc, en fait, mon rôle, je le trouve plus évident aussi aujourd'hui. C'est assez naturel parce que, du coup, moi, je fais cette partie opérationnelle. Lui, il va prendre vraiment cette partie marketing digital. Je lui donne les orientations qu'il faut et je pense qu'en fait c'est ça le rôle du chef d'entreprise et après c'est lui qui sait faire ou en tout cas qui a appris à faire donc il va proposer des choses et puis on itérera, on travaillera ensemble sur ces propositions et puis ça fonctionnera sûrement très bien comme ça.
Ouais, chouette. Voilà. Et le business, comment ça va?
Écoute, le business, septembre, octobre, novembre, ça a été des super mois qui ont bien validé en fait tout ce qui s'était passé avant sur 2020. Le mois de décembre, alors je l'avais prévu, que ce serait un petit mois et ça a été un petit mois. Ouais. Là, le mois de janvier, c'est pareil, ça démarre petit. Après, le truc, c'est qu'on a un décalage des soldes qui a été décidé, donc finalement les gens attendent je pense beaucoup ces soldes qui doivent arriver. Puis en plus on est dans un moment de saison en fait où on n'est pas sûr, enfin les vêtements d'hiver sont déjà achetés ou
les gens ont plus trop de sous après Noël,
tes vêtements d'hiver pour tes enfants ils sont déjà achetés ou alors tu as des petits besoins et dans ce cas tu vas plutôt aller faire un complément acheter un collant en laine chez Petit Bateau plutôt que d'aller commander une malle et puis tu penses pas encore au printemps, tu vois, c'est trop tôt, donc voilà. Mais écoute, je suis optimiste de toute façon. On a quand même, comme je disais, des prévisions de croissance qui restent ambitieuses, mais pas complètement déraisonnées. Donc je pense que ça pourrait le faire. Là, le premier trimestre va répondre à cette question-là, de voir si les plans tels que je les ai définis là sur l'année 2021, ils sont ok ou s'il faut revenir là-dessus aussi.
Ouais. Tu nous avais dit aussi que tu allais lancer le bébé.
Ouais.
Alors, oui, pas que tu allais lancer la création, le fait d'être enceinte. Hein.
Non, c'est non, l'ouverture des tailles bébé, en effet. C'est vrai que jusqu'à octobre, on faisait du 2-8 ans et mi-fin octobre, je ne sais plus la date exacte, on a ouvert les tailles bébé. Ouais. Donc ça, c'est chouette. On a pas mal de commandes aussi sur cet univers-là. Donc voilà. Et puis, on a des petits projets autour du coup des tailles bébé à venir pour compléter un peu l'offre de mâles. Donc c'est bien. Donc là je peux dire que l'ouverture des tailles bébé c'est validé et puis on continue comme ça.
C'est surtout que j'imagine, enfin autant bon bah voilà, je vois avec mes enfants qu'on 6 et 9 clairement comme tout le monde, j'achète des habits en septembre, c'est enfin en gros au grand changement de saison.
Ouais.
Mais bon, le bébé, ça, il y a un besoin en permanence parce que quand on voit comme ça grandit tellement vite.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis en plus, mine de rien, dans la partie seconde main, il y a beaucoup, beaucoup plus de choses chez les bébés.
C'est clair.
En tout cas, à récupérer parce que, alors déjà, il y a beaucoup de choses qui sont offertes à des jeunes parents qui ne vont pas du tout être utilisées parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup trop de choses.
Ouais.
Et puis après, comme tu disais, de toute façon, ils grandissent tellement vite que.
Tu les mets une fois et.
Ouais, c'est ça, tu as le temps de les laver une fois et puis tu les redonnes.
Ouais.
Et puis, bon, un bébé de 3 mois, il va vachement moins user son pantalon qu'un enfant de 4 ans.
Hein. Donc, c'est ça.
Donc,
ouais, voilà, puis il y a un truc aussi, tu vois, j'en parlais avec ma belle-sœur là, qui a un petit bébé, un tout petit bébé, et elle me disait, bon, il y a des fringues qu'on lui a passées qui étaient quasiment neuves ou même des trucs qu'on lui a offerts. Mais en fait, tu regardes la taille et surtout dans l'univers du bébé, tu as des trucs où ça taille pas du tout pareil entre les marques. Ouais. Et donc, le jour où tu te dis, c'est bon, il a l'âge 2, ah ben non, c'est trop petit.
Ouais. Ah ouais, il y a beaucoup, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui m'arrivent seconde main et qui ont encore toutes leurs étiquettes, enfin le truc a jamais été mis, ouais.
Ouais.
Ce qu'on retrouve moins sur l'enfant. Il y a aussi des cas comme ça, mais c'est quand même moins présent.
Ouais.
Ouais. Donc ouais.
Comment t'as vécu le nouveau confinement ?
Écoute, comme je te disais, de toute façon, je m'étais lancée dans un tunnel de taf. Donc, finalement, le nouveau confinement, quand il est arrivé, je me suis dit, de toute façon, j'étais partie sur le fait de pas avoir trop de vie pendant 3 mois. Donc voilà. Bon, après, c'est sûr que c'est toujours, moi, je suis très impactée par le fait de pas pouvoir voir des amis. En soirée, ce genre de choses, donc ça, et puis encore, c'était pas forcément au moment du confinement que ça a été long, c'est plutôt maintenant que ça devient vraiment pesant.
Ouais.
Après, de toute façon, ce confinement, il était quand même assez particulier par rapport au premier. Tu as toujours les enfants qui vont à l'école, donc, de toute façon, tu sors pour aller les chercher, tu peux sortir pour aller faire tes courses, enfin, il y avait tellement de monde dans la rue, enfin, on est à Paris, donc finalement, t'as l'impression que c'est tout comme pas de confinement ou confinement. Hein. C'est juste que les gens se baladent avec une attestation et puis voilà. Donc,
ouais.
Donc voilà. Donc en fait, ça m'a pas trop dérangé. Et puis en plus, le mois de novembre, ça a été un très très fort mois d'activité. Donc de toute façon, j'étais sous l'eau et j'ai beaucoup travaillé, quoi.
Ouais. Comment ton entourage a vécu la diffusion du deuxième épisode?
Écoute, bien, les gens ont écouté le deuxième épisode et du coup, ils suivent l'histoire. Donc voilà, j'ai pas eu particulièrement de. Alors j'ai eu forcément les petits messages de gens qui les ont écoutés et qui ont trouvé ça chouette en fait de comprendre un peu ce qui se passe dans le développement du business, parce que c'est vrai qu'avec des amis ou la famille, quand on demande comment se passe ton entreprise, tu vas pas rentrer trop dans les détails non plus de tes craintes ou alors si quand il y a vraiment un truc très très présent, mais sinon dans le quotidien, les craintes au quotidien, ce dont on a pu parler du rôle de du fondateur de l'entreprise, tout ça, ça t'en parle quand même pas trop, quoi. Donc voilà, donc ça reste toujours une voie d'apprentissage pour les gens. Et tu vois, Samir aussi, avant d'arriver, il a aussi fait comme ce qu'avait fait Maëlys avant d'arriver, il a écouté le podcast, ce qui encore une fois lui a permis de savoir où il mettait les pieds en fait en arrivant chez Little Pop.
Donc, super. Et t'a posé des questions. C'est toi qui. Alors, deux questions. C'est toi qui lui a dit, tiens, écoute, ou lui, il l'a fait spontanément?
Je lui ai dit, donc, quand on a été OK pour travailler ensemble, donc avant qu'il arrive, je lui avais dit, écoute, il y a ce podcast qui existe, si tu veux l'écouter, pas d'obligation. Voilà,
pas d'obligation, mais je te poserai une interrogation écrite sur ce que j'ai dit. Alors,
un petit QCM. Non, pas du tout. Non, donc, du coup, je lui avais dit que le podcast existait, que s'il voulait écouter, il pouvait complètement le faire. Et du coup, il l'a fait. Mais voilà, c'est moi qui lui ai proposé de le faire. En fait, je trouve ça vraiment intéressant pour les gens qui arrivent de l'écouter.
C'est vraiment, ouais.
On travaille à deux ensemble. Si tu peux écouter la personne avec qui tu vas travailler avant et capter un peu son univers, son état d'esprit, c'est quand même assez confortable, je pense, pour une arrivée.
Et t'as posé des questions, du coup, suite à l'écoute ?
Non, pas particulièrement. Alors après, je t'avoue que là, on vient de passer 3 jours ensemble. Donc, vu qu'il est alternant, tu vois, il est 3 jours avec moi et deux jours en cours.
Ouais.
Et 3 jours où je l'ai un peu bombardé d'informations dès le premier jour, bien sûr. et puis, je lui ai donné les quelques tâches urgentes à faire pour avant-hier. Donc voilà. Donc,
ouais.
Donc là, il était un peu focus là-dessus. Il y a des choses qu'il faut qu'on lance lundi quand il revient. Après ça, je pense qu'on va pouvoir un peu plus ouvrir la discussion sur d'autres choses. Donc, donc ça ira mieux. Mais
c'est mon frère qui m'avait. Mais non, vas-y.
Il a un peu trop la tête dans le guidon déjà.
Ouais.
pour ça.
C'est mon frère qui m'avait dit, parce que j'ai fait quand même 3 onboardings en 1 an et demi quand on était à Paris. Et il me disait qu'en fait, aux États-Unis, il y avait. Enfin, non, 2 ans, mais bon. C'est pas grave. Et il me disait, aux États-Unis, il y a une expression, alors j'ai plus le terme en anglais, mais L'idée, c'était de prendre l'image, en fait, quand tu as un onboarding, c'est que tu as la bouche ouverte et on te met une lance à incendie dans la bouche et on envoie l'eau, quoi.
C'est exactement ça. Ouais. Bah, c'est vrai, hein, c'est, de toute façon, on dit quand tu arrives dans une entreprise, il faut que tu te mettes en mode éponge. Ouais. Tu prends. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est tellement fatigant les premières semaines quand tu arrives dans une entreprise, parce que la captation de la formation, le traitement de toute cette information, et puis un peu en plus la pression que tu peux te mettre dans ces débuts. Laisse tomber, je me souviens en effet de démarrage où les trois premières semaines à minima, mais t'es juste claqué, t'en peux plus. Tu comprends pas, parce qu'en plus, ces trois semaines où tu sors pas. Tu sais pourquoi je suis aussi fatiguée? Parce que c'est ça, quoi. En effet.
Ouais, et puis tu arrives, t'as des mots techniques. Moi, je me rappelle.
Ouais, bah ouais.
Le dernier job que j'ai fait, j'arrive. Bon, j'étais dans un univers que je connaissais. Enfin, j'avais déjà bossé 8 ans dans cet univers-là. Enfin, et là, premier codir, je ne comprends pas la moitié des trucs qu'il racontait. C'était en français en plus, tu vois. Et sauf qu'en fait, tu te rends compte que chaque boîte a ses acronymes, son jargon, et t'es là, mais bon, après, ouais. Au bout d'une semaine, t'as la moitié des acronymes que t'as compris. Et puis, au bout d'un mois, c'est bon, quoi. Mais...
Et tu les utilises toi-même après, sans t'en rendre compte. Ouais. Ouais, bien sûr. Non, c'est clair. C'est vrai que tu as le langage technique de l'entreprise, tu as la culture, du coup, le langage qui va avec la culture de l'entreprise aussi. Enfin, c'est assez complexe. Ouais. Bon, dans le cadre de LittlePod, c'est peut-être un peu moins violent, mais ouais.
Ouais, ça me fait penser, il y avait une campagne de pub faite par Stratégie où en gros tu voyais des parents qui parlaient à leurs enfants comme s'ils étaient au bureau, tu vois, genre bon bah voilà, quelle est la roadmap pour la matinée, enfin des trucs.
Ah, génial.
Mais
ça va être très drôle, ça, quand même.
Ouais, c'est pas mal. Mais c'était hier, il y a ma fille qui était Pénélope, on était en voiture, je vais la chercher à une activité où elle avait dessiné un ordinateur. Elle était à l'arrière de la voiture. Elle me dit « Bon, maman, combien j'ai reçu de commandes aujourd'hui ?» Et puis, j'ai combien d'écoutes là sur mon épisode ?» Waouh. Bon, je te laisse hein, parce que j'ai un call maintenant.
Oh, mince.
Bon, les calls, c'est pas moi, c'est son père, mais bon.
Tu te rends compte de l'impact quoi, de ton activité.
Mais c'est clair.
Ouais, c'est
ouf, hein. C'est...
Bah en plus, maintenant qu'on travaille quand même tous beaucoup à la maison, c'est vrai que, bah ouais, c'est...
Bah,
eux aussi, c'est des éponges non-stop. C'est pas que, genre, t'arrives en entreprise, ils intègrent tout. Donc forcément, ils entendent tout. Ouais. C'est marrant.
C'est fou. Hein. c'est trop mignon. Bah, c'est Émilie Martinet qui raconte, qui est dans le chemin, tu sais, qui est en train de devenir architecte d'intérieur. Ouais. Que maintenant, ses enfants, ils rentrent de l'école, ils ont dessiné des plans de maison.
Ouais. Ouais. Ça fera peut-être des futures vocations, on ne sait jamais.
C'est ça. Et dans les grandes nouveautés, là, depuis août, tu as un nouveau logo.
Oui, en effet, superbe nouveau logo. Ouais. Ouais, carrément. Du coup, c'est encore une fois la chance d'avoir dans l'entourage une personne qui, une amie qui est DA, du coup, et qui a eu envie de se repencher sur le logo Little Pop, qui était très bien, tu vois, pour le démarrage, mais qui en effet avait besoin d'un petit coup de neuf. En plus, on arrivait sur les 1 an de Little Pop, donc ça valait le coup de le faire. Et qui du coup a fait un super travail, qui a vraiment capter directement l'univers dans lequel est Little Pop et du coup ce que j'avais envie de montrer au monde. et du coup ça s'est fait assez rapidement au final, parce qu'elle a fait quelques propositions, on a dû faire un aller-retour et puis on est arrivé sur ce nouveau logo qui fonctionne super bien. Qui me plaît vraiment beaucoup. Ça c'est assez chouette. Après dans les nouveautés, dans ce qui s'est passé, il y a aussi d'autres choses. J'ai enfin touché mes prêts,
carrément. Attends, juste avant qu'on parle des prêts, juste sur le nouveau logo, comment t'as tes clientes, parce que t'as des clientes qui sont régulières, comment ils ont réagi à ce changement de logo?
J'ai eu plein de messages qui me disaient que c'était canon, beaucoup plus moderne, et que du coup ça plaisait beaucoup. beaucoup, okay. Beaucoup de messages comme ça, ouais. Ah ouais.
Et est-ce que, après c'est difficile peut-être à dire, est-ce que tu as senti que ça avait un impact sur la hausse des commandes, parce que forcément du coup ça modernise l'univers de la marque.
Je suis incapable de te le dire.
Ouais.
Je pense qu'on a, on n'a pas assez de recul sur une activité en plus avec cette année 2020 qui est tellement particulière. C'est très 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 compliqué de voir. Ouais. Et en plus, en fait, pour moi, le logo c'est une première marche de tout le travail qu'on a à faire sur la plateforme de marque. Mm-hmm. Donc du coup, ouais. C'est bien, c'est une première marche et sûrement que ça a eu un petit impact, mais il va falloir aller beaucoup plus loin.
Ouais. Bon, on va faire une petite parenthèse pub pour ceux. Je vous invite évidemment à aller voir le nouveau logo de Little Pop. Et si le nouveau logo de Little Pop vous plaît et celui de Pourquoi pas moi aussi, et que vous avez besoin d'une graphiste DA, n'hésitez pas, on vous donnera ses coordonnées parce que c'est la même personne qui a créé nos logos.
Exactement. Quelqu'un qui travaille très bien,
qui a beaucoup de talent.
Exactement.
Du coup, tu disais, donc, je t'ai coupé, excuse-moi, donc les prêts. Donc, oui, en effet, oui. C'était la grosse problématique quand on s'était quitté. C'était que tu avais eu un prêt d'honneur, tu avais eu l'accord, mais tu n'avais toujours pas les sous sur le compte. Donc,
Exactement. Bah, j'attendais toujours le go du prêt bancaire qui était couplé au prêt d'honneur.
Ouais.
Go que j'ai eu, du coup, en août, quand on était justement sur notre terrasse au Champ des Cigales. Et du coup, ça a encore un peu traîné parce que l'argent, je l'ai eu finalement. Excuse-moi. Je l'ai eu finalement en octobre. Fin octobre. Ouais. Donc, mais super nouvelle. Donc du coup, ça s'est fait. Et en plus, du coup, vu que ça a libéré le prêt,
j'ai un chat dans la gorge. Ah oui, t'as un chat dans la gorge, ouais.
Vu que ça a libéré le prêt PIE, j'avais demandé en fait au moment du prêt PIE à bénéficier l'accompagnement d'un parrain. Donc c'est quelque chose que propose Paris Initiative Entreprise et donc j'ai un parrain, donc
du coup, génial, du
coup, avec qui je discute depuis tout début décembre. Du coup qui correspond à des besoins, tu t'exprimes en fait sur quelle thématique tu voudrais être accompagnée. Donc moi ça tombait en plein dans business plan, c'est quoi les plans pour les 3 prochaines années, qu'est-ce que ça veut dire en termes de recherche de financement, tout ça. Du coup, c'est quelqu'un qui a une longue carrière là-dedans, qui a été expert comptable, accompagné des entreprises dans leur développement, enfin voilà, il a fait beaucoup de choses là-dessus.
Ouais.
Et du coup, je travaille avec lui sur le business plan et c'est pareil, ça me fait avancer très 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 vite.
Donc, super.
Et puis en plus, ça rassure beaucoup parce que là, je parle à quelqu'un qui sait de quoi il parle en fait. Donc donc ça c'est cool. C'est vraiment
parce que du
cool.
coup, c'est une personne qui a quel type de profil ?
Donc c'est un retraité qui a travaillé. Alors il a monté des entreprises, il a travaillé dans des cabinets de conseil en management, en finance aussi, je crois. Enfin bref, il a fait pas mal de choses. Donc là, il est à la retraite. Il continue à avoir une activité de freelance pour accompagner des gens dans leur transformation d'entreprise. Et puis, il a cette activité bénévole, du coup, auprès de Paris Initiative Entreprise pour accompagner des jeunes entrepreneurs.
Ouais,
c'est vraiment super. C'est vraiment super. Et puis, c'est vrai que c'est compliqué quand c'est quand même pas du tout ton domaine, les business plans, tout ça. Enfin, c'est vite très lourd en fait, et puis tu mets des chiffres dans des cases, en fait tu sais pas si t'as fait bien, si t'as pas fait bien, voilà. Là t'as quelqu'un qui sait ce qu'il fait en fait, qui est là vraiment en toute transparence, en toute honnêteté, pour challenger ce que tu fais, pour poser les bonnes questions, celles que t'as oublié de te poser, celles dont les réponses elles sont un peu branlantes, mais quand tu te les poses à toi-même et que tu te réponds à toi-même, ça passe. Quand c'est quelqu'un d'autre, ça passe.
Ouais, ça fait du bien aussi d'échanger, même si tu as un cofondateur, mais il a un job à côté, donc c'est pas pareil que.
Il a un job à côté, et puis en plus, lui, il a changé de job en novembre, donc autant dire que quand on parle tu commences un nouvel process d'onboarding, en plus à ces niveaux de poste dans lesquels il est, c'est autant dire que c'est très très intense, donc c'est vrai que ces derniers temps, je suis un peu plus seule, même si je parle aussi à d'autres gens. En tout cas l'arrivée de ce parrain-là fait vraiment vraiment du bien, et puis surtout tu vois, je te parlais en août de il faudra que je lance un tour de financement, que ça me fait vraiment peur, que je sais pas comment ça va se passer, là ça devient beaucoup plus clair et ça me fait beaucoup moins peur, ça c'est assez
cool, c'est top aussi. Et tu vas l'avoir pendant combien de temps ce parrain?
Je crois que c'est normalement un an.
D'accord.
Il y a sûrement possibilité d'étendre le truc. Après, tu sais, c'est vraiment au besoin. Alors, ils disent qu'il faut se faire un rendez-vous par mois parce qu'en fait, si t'écartes trop, c'est que en fait, le parrainage ne fait pas
ouais.
sens. Il n'y a pas l'apport dont c'est nécessaire. Moi, je t'avoue que depuis début décembre, on a commencé à parler. On s'est déjà parlé 3 fois.
Ouais.
Donc, voilà, il y a un vrai besoin.
Ouais, il y a peut-être des moments où tu as plus ou moins besoin.
Ouais.
Poser les bases et puis ensuite.
Ouais, exactement. Ouais. Donc là, de toute façon, là, les choses, elles commencent à se clarifier sur le besoin en financement dont on va avoir besoin.
Ouais.
Après, il y a comment on va chercher ce financement-là. Enfin, ça va prendre encore quelques temps, quoi. Mais, mais voilà. En tout cas, ça avance. C'est cool.
Ouais, bah, c'est génial. Bravo. Et tu disais que ça te faisait encore un peu peur. C'est quoi tes peurs du moment?
Alors, ça me fait un peu peur parce qu'en fait, donc comme je te disais, on passe de mi-2020, on imaginait une très forte croissance, à on est début 2021, on est sur une croissance beaucoup plus raisonnée. Du coup, le financement que j'imaginais aller chercher est plus bas que ce que j'imaginais, donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
Ouais.
Mais ça veut dire que je vais pas taper les mêmes personnes entre guillemets.
Ouais.
C'est-à-dire que bon, fonds d'investissement, tout ça, on oublie.
Taper ciblé quoi.
Oui, pardon. Oui, cibler les mêmes types de personnes. Donc, du coup, les fonds d'investissement, c'est clairement, on oublie, et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Parce
ouais.
que c'est le truc qui me faisait vraiment peur, même si maintenant, il y a quand même des choses très bien qui sont à ce niveau-là. Et en fait, je me retrouve sur, je vais lancer un tour de Love Money et potentiellement faire appel à un ou deux business angels, et encore c'est pas sûr. En fait, je suis plutôt dans le questionnement de est-ce que je peux pas réussir à capter l'intégralité de ce dont j'ai besoin en tour de Love Money.
Okay.
Donc c'est bien.
Ouais.
Cependant, Love Money, ça veut dire faire appel à son entourage. Et alors moi, déjà demander des choses, de l'aide aux gens qui m'entourent, c'est beaucoup 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 d'efforts.
Ouais.
Et alors de l'argent. Bon, après, le truc, c'est que c'est pas demander de l'argent en mode faites-moi un don, soyez gentil. Il y a quand même des contreparties de participation dans l'entreprise. Enfin, voilà.
Ouais.
C'est pas non plus un cadeau que les gens me feront. Voilà. Mais quand même, enfin, tu
ouais.
vois, c'est assez, je trouve ça assez particulier. Et tu vois, je me suis un peu testée là-dessus parce que j'ai commencé typiquement par appeler ma sœur pour voir comment j'arrivais à parler de ça avec quelqu'un qui est très très proche de moi. Bon bah du coup ça s'est très bien passé, donc c'est bien, c'est rassurant, mais bon c'est
j'en reparlerai plus tard dans le podcast parce que c'est une personne que je vais interviewer en mars. Et c'est une personne qui a eu une histoire incroyable et elle a inventé un truc qui s'appelle la théorie de l'échec. Bon, il est sur ma table de nuit, le bouquin. J'ai pas encore fini le livre, mais en tout cas, elle dit finalement, c'est la théorie de la veste. Et qu'en fait, tant que tu t'es pas pris 3 vestes, à chaque fois, en fait, faut y aller en fait, parce que au pire, on te dit non. Bah, c'est pas grave en fait, enfin, il faut toujours continuer parce que c'est pas grave, c'est pas.
Ouais.
Échouer, c'est chemin de la réussite, quoi.
Oui, bah c'est clair. Après, moi, tu vois, dans cette démarche-là, ce qui me gêne beaucoup, c'est de mettre des gens en position de devoir me dire non. Parce que tu vois, moi, si quelqu'un typiquement m'appelait pour ça et que je ne pouvais pas parce que financièrement, j'ai pas d'argent à investir ou ce genre de choses, ça me coûterait beaucoup de dire non à un ami ou quelqu'un de ma famille là-dedans. Et en fait, c'est de mettre les gens dans cette position-là qui me fait vraiment peur. Bon, après, il faut justement dire qu'il y a aucun problème à dire non, bien sûr.
C'est peut-être tourner le truc en mode bon déjà j'imagine que tu sais qu'il y en a qui ont les fonds ou pas, et puis après pour ceux où tu te dis qu'ils l'ont mais à ce moment de leur vie ils l'ont pas, c'est peut-être aussi de leur dire écoute, je pense que c'est une super opportunité ce que je te propose et que j'avais pas envie de pas te le proposer, enfin en gros en mode je te fais un cadeau de pouvoir
non,
te
mais pas... c'est vrai parce que en plus tu vois ce qui est complètement antinomique dans ce que je dis, c'est que moi j'y crois à mort. Tu vois, Little Pop, tout ça, enfin, il y a un vrai truc à faire. Donc, en fait, les gens qui mettront de l'argent, ils vont repartir avec des parts de l'entreprise. Bon, bah, si ça cartonne, ça veut dire
que... Comme ça va cartonner.
Comme ça va cartonner, bien sûr. Ils vont sûrement avoir un retour sur investissement à un moment qui sera intéressant pour eux. Mais ouais, c'est vraiment, tu vois, le truc idiot de devoir demander de l'aide, quoi. Ça a toujours été comme ça.
Si je peux me permettre, est-ce que si dans ta tête tu te dis que tu leur demandes de l'aide, si en gros tu dans la façon dont tu apprends le truc, si tu te dis je leur demande de l'aide, bah tu les mets dans une situation genre
recevoir dans cette position.
Voilà, tandis que si dans ta tête tu te mets en position en mode bah voilà, j'ai une opportunité incroyable à vous proposer et vous êtes les premiers à qui j'ai envie de vous d'en faire bénéficier.
Ouais, non, mais c'est clair. Mais en plus, c'est vraiment ça. Enfin, tu vois, c'est vraiment ça. Et c'est, tu vois, c'est tout, en fait, ce petit cheminement que je suis en train de faire, parce qu'en fait, toutes ces histoires-là de je vais faire un tour de Love Money, je l'ai décidé il y a une semaine. Hein. Donc, j'en suis sûre depuis une semaine. J'ai commencé à faire une liste de personnes, je vais commencer à tâter le terrain et puis j'espère lancer les choses assez rapidement. Tu vois, si j'arrive à lancer tout ça sur le mois de février, ce serait quand même assez cool.
Ouais.
Mais c'est, tu vois, moi aussi, je suis en train de cheminer, du coup, dans ce truc-là. Je parle à des gens qui l'ont fait, tu vois, encore une fois, on a la chance dans notre entourage d'avoir des gens qui ont monté des entreprises, qu'elles aient marché ou pas, mais qui en tout cas sont passés par ce genre de financement et qui du coup peuvent aussi m'aider, parce que en plus c'est bien mignon de dire je vais faire un tour de Love Money, mais comment on fait, quoi, enfin c'est
comment ça se passe? Et alors du coup t'as réussi à récupérer quoi comme information de ça?
J'ai appelé donc une ancienne Enablonienne qui avait monté son entreprise Angela à Toulouse qui a finalement pas marché mais qui avait fait ces choses là il y a 6 ans et du coup elle m'a donné des étapes par lesquelles elle était passée, qu'elle m'a donné un peu les conseils de ce qu'elle trouve qui a été bien à faire, ce qu'elle a fait et sur lesquelles elle regrette un peu. Donc voilà, donc ça c'est assez chouette. Moi, je me posais la question de savoir par qui tu es censé être accompagné à un moment, parce que tu as quand même aussi des papiers. Hein,
carrément, il faut formaliser tout ça.
Toutes ces choses-là. Ouais. Donc moi, je ne savais pas exactement à
c'est
qui.
C'est par qui, du coup par
un compte. C'est des avocats, en fait. C'est des cabinets. Alors après, elle a fait appel à des avocats. Peut-être que d'autres gens sont aptes à le faire, mais en tout cas.
Ouais, peut-être. Je ne suis pas du tout experte là-dedans, mais tu vois, par exemple, moi, je sais que quand tu crées une boîte, soit tu peux faire ça avec des avocats, soit avec des experts comptables.
Ouais,
et toi, typiquement, ma boîte, je l'ai créée avec un expert comptable. Ouais. Et j'imagine très aisément que demain, s'il faut que je mette à jour mes statuts, ça, je passerai par eux.
Par lui.
Et pas par un avocat, quoi.
Ouais, mais ça, en fait, donc ça, c'est une information que moi, j'ai prise d'Angela.
Ouais.
Après, typiquement, c'est quelque chose que je veux rediscuter avec mon parrain PIE.
Oui. Ouais.
Parce qu'alors lui il est pas forcément spécialiste dans les tours de levée de Love Money.
Ouais.
Par contre il a lui aussi un réseau et la possibilité de poser des questions et il aura peut-être aussi des réponses à m'apporter là-dessus.
Ouais.
Donc c'est bien aussi quoi. J'avance doucement là-dessus.
Et du coup tes peurs, je reviens dessus. Donc bon il y a ça, enfin l'appréhension par rapport au financement du coup est différent. Est-ce qu'il y a d'autres choses?
Le truc aussi, c'est comme tu disais, à partir du mois d'avril, j'ai plus de chômage. Je suis pas persuadée que je puisse me rémunérer directement à partir du mois d'avril, et sûrement que non en fait. Donc ça veut dire passer potentiellement par une période où je gagnerai pas ma vie, ce qui ne m'est jamais arrivé en fait. Donc c'est un peu compliqué. Si c'est le cas, ce sera sur une période bien délimitée. Donc quand tu sais que c'est pour un temps donné, ça passe. Et puis c'est quelque chose dont on a déjà discuté avec Benoît.
C'est ce que j'allais te demander.
On fera comme on peut là-dessus hein, de toute façon, mais ça veut dire se serrer la ceinture un peu plus que ce qu'on fait
en même temps. Les bars et les restos sont fermés, donc
alors tu vas voir que ça va tomber pile poil au moment où ça va rouvrir.
Ouais.
Ça va être super. Mais non, après, bon, voilà, c'est une situation qui peut se gérer si elle est temporaire. Si elle n'est pas temporaire, de toute façon, ça veut dire qu'il y a une vraie question structurelle, Little Pop, à se poser, et ça veut dire qu'on ne va pas dans la bonne direction. Ouais. Et j'imagine qu'en fait, on l'aura détecté plus vite et que du coup, il y aura des décisions à prendre à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est assez flippant, quoi. Tu vois, là, financièrement parlant, de toute façon, avec le fait d'avoir monté Little Pop, de me retrouver au chômage, je suis retombée à ce que j'étais en fait en démarrant, en étant jeune ingénieur diplômé. Je suis exactement au même niveau de rémunération et d'épargne. Enfin, tu vois, c'est parce qu'en plus, vu que j'ai mis tout mon argent dans Little Pop, voilà. Et puis, en plus, tu te dis, il y a ça en plus. Tu sais, t'as l'impression, je sais pas, comme si tu retournais à l'âge de 18 ans, quoi. mais c'est aussi toujours...
Tu as la fraîcheur d'une jeune fille de 18 ans.
C'est ça. Trop bien. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est assez flippant. Et puis bon, bah 2021, de toute façon, ça va être l'année, ça passe ou ça casse de Little Pop. Alors, j'exagère, hein, parce que c'est jamais 0 ou 1 dans tous les cas, mais en tout cas, ce sera vraiment la vraie année test par rapport à l'année 2020 qui était l'année de lancement pour le business Little Pop. Et après, il y a des super choses qu'on imagine, des projets dont j'espère pouvoir te parler dans 3 mois. Et si tout ça se concrétise, franchement, on est dans une aventure qui est hyper intéressante.
Ouais.
Et qui peut aller loin.
Ouais, qui va aller loin. Et est-ce que tu as des doutes ? De nouveaux doutes ?
De nouveaux doutes. Alors oui, bien sûr, j'ai des doutes. Alors après, est-ce que j'en ai des nouveaux ? Non, je pense pas. Je pense pas avoir de nouveaux doutes. J'ai toujours ces mêmes doutes qui restent là. Et puis, qui resteront toujours là, en fait, tu sais, mon rôle, ma capacité à faire, la peur de pas y arriver, tout ça, en fait. Tu sais, il y a un moment quand tu te rends compte que tu as ces peurs-là, tu te dis, OK, super, j'ai identifié le problème, je vais travailler dessus, ça va bien se passer, voilà, et puis un jour, ça partira. Bon, en fait, ça partira pas, je pense. C'est comme ça, c'est structurel à ma personnalité et sûrement que ça concerne beaucoup d'autres gens comme moi. C'est un peu, en fait, tu vois, moi, j'ai passé ma vieille adolescence, on va dire, mon début de vie d'adulte à attendre le moment où je serai adulte. Parce qu'en fait, il y a plein de choses de la vie d'adulte dont j'avais mais tellement pas envie. Tu vois, le schéma de se marier, faire des enfants, tout ça, moi, quand j'y pensais, j'avais l'impression d'aller me retrouver dans une prison. Je me disais, mais non, mais c'est pas possible, la vie, ça peut être aussi sûrement autre chose, tout ça. Mais en même temps, je suis censée faire ça, et un jour, je vais en avoir envie parce que je serai enfin devenue adulte. Bon, bah, grosso merdo, c'est jamais arrivé. Donc là, je pense que c'est tout pareil, en fait, tu vois. Ouais. C'est vraiment tout pareil. Il faut juste accepter qu'il y ait des peurs et des doutes qui seront toujours là. Et puis, ça peut devenir plutôt un moteur, en fait.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est justement, en effet, si tu les as identifiés, c'est de se dire, les transformer en force, quoi.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est pas facile tous les jours, hein, quand même, de les transformer en force, parce que douter en permanence.
Ah bon?
Il y a des jours, t'es fatiguée.
Fais un effort, Nathalie, voyons.
Non, mais c'est vrai que quand tu doutes perpétuellement de toi, alors il y a des jours où en effet tu vas te sentir très forte et c'est bien, mais t'es quand même tout le temps en train de te remettre en question, et c'est quelque chose qui est quand même aussi fatigant. Ça peut être aussi usant, mais bon. Ouais. Je pense qu'à côté de ça, il y a aussi la force de caractère qui fait que malgré cette usure, ça fonctionne. Tu vois.
Après, tu vois, là, je lisais cette semaine un truc et c'était vachement intéressant. Il disait, bon, l'idée, c'est de décrire ton objectif. Et en fait, alors, j'ai plus le terme technique créé par les psychologues qui avaient prouvé ce truc scientifiquement. Mais il disait, en gros, bon, tu visualises ton objectif et en fait, tu réfléchis à tous les obstacles qui vont te permettre d'atteindre cet objectif. Parce que le fait de noter ces obstacles, ça va te créer une motivation supérieure parce que tu vas avoir envie, entre guillemets, de dépasser ces obstacles. Et donc, d'allier, en fait, ouais, l'objectif et se dire, OK, il y a quand même des obstacles, parce que dans chaque objectif, quoi qu'il arrive, il y a des obstacles externes ou enfin qu'on peut mieux contrôler ou pas. Et ça te permet, en effet, de te donner une petite seringue de motivation. Et je trouve ça hyper intéressant, parce que tu vois, moi, je me le suis appliqué à moi-même. Et je me suis aussi, tu vois, noté, en gros, tous les OK, j'ai mon objectif, voilà par quoi il va falloir que je passe. Et puis, bah voilà, on a tous nos petits démons. Et du coup, d'écrire, enfin, tu vois, mon bureau, il est un peu parsemé de feuilles avec des trucs pour me rappeler des choses que je sais, mais quand tu as les petits coups de down, bah, qui font du bien de revoir, et quand tu l'as en permanence sous les yeux, bah, ça.
Ouais, ça t'aide.
En tout cas, moi, je sais que ça m'aide vachement, parce que même si parfois je ne les vois même plus, mais je sais que c'est là. Et que si j'ai besoin, bah, j'ai juste à acheter un petit coup d'œil. Alors, soit sur mon petit carnet, soit. Mais au moins, j'ai vraiment ça en cas de coup dur, quoi.
Ouais. Bah oui, c'est vrai, t'as raison. C'est quelque chose que moi je fais absolument pas, tu vois. C'est vrai que quand tu vois ces choses-là, ça te permet de les garder en tête, de pas les oublier et de te souvenir de ça, plutôt que de taper ton coup de down, de vivre ton down et de te rappeler un moment de ah mais non mais c'est vrai en fait je peux supporter aller plus loin que ça
Ouais, et puis même, enfin, en tout cas, là, je parle de moi, mais quand j'ai des coups de down, j'ai l'impression d'être dans du brouillard, et j'ai même pas les feux brouillards, quoi. J'ai vraiment, je sais que je suis quelque part, je vois plus rien, je vois plus devant, je vois plus derrière, enfin, moi, j'ai trouvé cette solution-là. Bon, ça fait pas longtemps. Mais je me dis au moins, voilà, dès que je suis dans le brouillard, OK, je prends ma lampe torche, en tout cas, sur ce qui s'est passé derrière, et ça me donne du courage pour ce qui va se passer après, quoi.
Ouais, bah ouais. Ah ouais, c'est vrai, c'est bien. C'est une jolie image, en plus.
Merci.
Moi, je dirais plus que quand je suis dans ces coups de down et tout ça, j'ai plutôt l'impression d'avoir un encéphalogramme plat.
Ouais, c'est un peu moins gay, ouais.
Il se passe plus rien, plus aucune information est capable de circuler. Enfin voilà. Ouais. Mais c'est donc pour répondre à ta question, non, je pense qu'il n'y a pas de nouveaux doutes, plutôt l'acceptation de ceux qui sont déjà là et qui seront toujours là. Voilà. Et moi, si par magie un jour ils disparaissent, ce sera la bonne nouvelle. Mais dans l'intervalle, après, franchement, c'est pas, encore une fois, c'est pas très grave, ça fait partie de la vie. Si on avait que des choses positives, des joies et des choses comme ça, déjà on ne grandirait pas, et puis je pense qu'on s'embêterait royalement, hein,
on se rendrait pas compte Et puis après, tu sais ce qu'on dit, hein, sur le syndrome de l'imposteur, hein, c'est que il n'y a que l'imposteur qui ne l'a pas.
C'est vrai que c'est assez rassurant de se dire ça. C'est vrai que oui, c'est vrai. Ouais. C'est comme quand tu te demandes si t'es vraiment intelligent ou pas, tu te dis, a priori, les gens qui ne le sont pas ne se posent pas cette question.
Puis l'intelligence, il y a plein de formes. Je sais plus, il y a un nombre d'intelligences. En fait, tu vois, on en a pas mal parlé avec Pedro Correa, que j'ai diffusé le 31 décembre.
Ouais.
Et Pedro, il raconte un truc dans son livre, et puis il en parle un peu dans l'interview. Chose, que tu t'en es, enfin, personne n'en est, enfin, tout le monde en est conscient, mais personne n'a jamais, enfin, réfléchi forcément trop au pourquoi du comment. Et en fait, il disait, avant, tout ce qui était art, littérature et compagnie, c'était très valorisé dans la société. Et donc, comme c'était valorisé, tu avais une rémunération qui correspondait à tout ça, en fait. Et depuis l'époque industrielle, en fait, on s'est dit, OK, pour l'industriel, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des gens qui pensent mathématiques, scientifiques. Et donc, on a dit que ce qui était bien, entre guillemets, c'était d'être scientifique. Et donc, la filière S, la voie royale, et puis tous les gens qui sont dans du cartésien et compagnie, c'est les gens qui sont les mieux payés dans les métiers aujourd'hui. Et il disait, en fait, il reprenait la genèse du truc, et tu te dis, c'est quand même hallucinant, parce que tu vois, c'est Pedro, il a un PhD, et en fait, dans une boîte, il adore tout ce qui est graphisme et tout. Il y avait deux jobs qui étaient dispo, un de graphiste et un d'ingénieur, un truc comme ça. Et on lui a dit, bah écoute, oui, les deux, il y a deux postes qui sont dispo. C'est juste que, bon, bah, t'as les compétences pour les deux. C'est juste qu'il y en a un où tu seras payé deux fois plus que l'autre, quoi.
C'est ouf.
Et c'est vrai que quand tu réfléchis à tout ça, bah, tu te dis, ouais, il y a des métiers qui sont hyper valorisés et valorisés à la fois en termes de société, enfin au niveau de la société et du regard des autres. Et puis aussi, bah, ça va souvent avec l'argent, hein.
Ouais.
Avec la rémunération associée. Mais ouais, si on a une âme d'artiste, c'est pas qu'on est à rater, quoi.
Non, bah non, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est vraiment le regard que la société porte sur ces métiers, ouais, qui fait que c'est plus ou moins valorisé. Donc en fait, c'est pas. C'est le croisement de beaucoup de facteurs plus ou moins réels, on va dire. Ouais. Qui fait que on en arrive à ça, mais c'est vrai que quand tu penses à toute cette jeunesse et tout ça, je m'étais jamais posé cette question.
Bah moi non plus.
T'as raison, quand on parle des voies scientifiques par rapport aux voies littéraires quand t'es au lycée, tout ça, la voie scientifique c'est la plus difficile. Quand il est, c'est que t'es les meilleurs.
Bah, c'est l'élite, quoi. Ouais.
C'est un peu le truc. D'ailleurs, c'est un truc que moi, je disais toujours à mes amis qui étaient en filière L, du coup, ouais, où ils me disaient, mais non, mais toi, c'est bon, t'es en S, c'est hyper dur, tout ça. Et je disais, non, mais moi, si j'étais en filière L, j'aurais pas mon bac, en fait.
On dit que c'est la plus... Enfin, alors, je sais pas si ça s'appelle toujours L aujourd'hui, mais c'est la filière la plus difficile parce que c'est la filière où il faut être le plus complet, en fait. Et puis, avoir un 20 en maths, c'est beaucoup plus facile qu'avoir un 20 en français, quoi.
Oui,
parce que ça...
C'est zéro ou un, quoi.
Ouais, c'est ça.
Complètement. Et moi, je sais que clairement, dans un bac L, j'aurais pas eu mon bac, ça c'est certain.
Ouais.
Donc ça veut pas dire que S c'est le plus difficile parce que je l'ai eu haut la main. C'est juste que c'est juste des filières différentes, quoi.
Moi, je vais te dire, dans mon lycée, il y avait même pas de L, hein, donc.
C'est vrai.
Ouais, non, il y avait pas de L. C'était les L, on les met dehors. On les met dans une autre dans une école voisine.
Chez nous.
Donc, si tu veux, moi, j'ai fait ES et j'étais un peu à rebut de la société, tu vois, par rapport à l'école. Tu vois,
ouais, t'es dans l'entre-deux, toi.
Bah, j'ai fait ES et en plus, j'ai même pas fait de prépa. Donc, imagine... pas bien, quoi. Ouais, dur.
Ouais.
Mais bon. Et du coup, c'est quoi tes nouvelles réjouissances de ces 6 derniers mois?
Alors, sur les 6 derniers mois, alors c'est toujours cette continuité de business là qui s'est faite sur septembre, octobre, novembre, qui continue à valider qu'il y a quelque chose à faire malgré ce ralentissement là de décembre et de janvier. Et c'est d'avoir réussi à détricoter ces problématiques de projection, de financement, tout ça qui paraissait vraiment être hyper hyper complexe et qui, ouais, en fait l'était parce que ça demandait un cheminement assez long qui fallait que je fasse et voilà. Et en fait, j'ai l'impression que là, je commence à arriver à quelque chose, à savoir, en tout cas sur cet aspect là ce vers quoi il faut que j'aille, et c'est assez c'est bien, c'est une belle avancée. C'est en tout cas c'est un travail que j'ai beaucoup fait à côté du reste, et beaucoup en plus inconsciemment aussi, même s'il y a eu des petites des calls avec des gens, des lectures, des trucs, voilà. Mais en tout cas, c'était un peu long et difficile à faire.
Ouais,
c'est pas fini, mais c'est
et de quoi t'es la s'il y a une chose à retenir, de quoi t'es la plus heureuse de ces trois derniers, enfin là, c'est pas les trois finalement, le dernier mois, mais ces derniers mois.
De ces 6 derniers mois, je vais être toujours sur la même thématique, c'est en fait c'est ce projet dont j'espère pouvoir te parler dans 3 mois, c'est une rencontre encore. Alors improbable, si tu regardes les planètes, tu te dis en fait c'était complètement écrit, mais c'est inattendu plutôt, qui s'est faite et qui est vraiment vraiment cool, qui fait du bien à tous les niveaux, qu'elle se concrétise ou pas, en fait c'est une personne très chouette que avec qui j'ai l'opportunité d'échanger depuis quelques mois, qui est aligné sur mes valeurs et les valeurs de Little Pop, qui est quelqu'un Je pense qu'on peut sûrement la qualifier de brillante.
Et, ouais, qui a une super belle énergie.
Qui a une énergie, ouais, ouais. Qui est vraiment belle et qui, mine de rien, m'apporte beaucoup de choses. Autant dans ce rôle de fondateur d'entreprise que même dans ce que je peux imaginer dans le futur de Little Pop. Donc, ouais.
Ça, c'est, bon, je sais qu'elle écoute le podcast, donc on l'embrasse.
Oui, on peut.
Et c'est quoi ta plus grande difficulté du coup de ces 5 derniers mois ?
La plus grande difficulté, je pense que ça c'était de vraiment d'accepter un peu ce plan 2021 dans lequel moi je prends un rôle encore très opérationnel, ouais. Qui reste très opérationnel, pardon, plutôt. Et même sûrement sur 2022, là où j'imaginais pouvoir assez vite me détacher de ça pour embaucher des gens pour faire cette partie-là. Ouais. Alors c'est pas que j'aime pas ça, c'est qu'en fait je vais sûrement faire principalement ça et puis à côté toute la gestion d'entreprise, mais voilà. Et en fait ça peut être pesant à certains moments, ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Et il fallait que je passe par l'acceptation de ça. Et puis maintenant que j'ai accepté, en fait, c'est très bien, ça ne pose plus de problème. Et en plus, dans les plans, il y a aussi, alors ça peut-être que je peux en parler, mais l'envie de délocaliser, entre guillemets, une partie des bureaux Little Pop dans la Pampa en Normandie. Ouais. Et du coup, toute la partie production de malles, en tout cas, avoir vraiment des locaux qui soient dédiés, parce que là, on ne peut plus, on arrive à saturation dans notre façon de fonctionner aujourd'hui. Et si on croit encore à un chouille, ça ne va plus passer. Ouais. Donc, en fait, je me dis, c'est pas plus mal. Ça voudra dire bouger dans cet endroit-là pour aller faire les malles. Ça veut dire prendre des locaux, imaginer l'univers à créer dans ces locaux-là, faire quelque chose qui soit un peu chouette et tout ça. Donc c'est plutôt positif au final. Ouais. Mais il a fallu quand même passer par cette petite acceptation où c'est vrai que quand tu penses à un fondateur d'entreprise, t'imagines pas forcément que c'est la personne qui a les mains dans le cambouis. En fait.
Ouais. Alors qu'en fait, au début d'une boîte, tu l'as fait.
Ah si. Ouais. Ouais. Exactement. Donc voilà.
Ouais. J'allais te poser la question, mais je vais quand même te la poser, même si j'ai un peu une idée de la réponse par rapport à tout ce que tu nous as dit sur comment va ton équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle.
comment dire ? En fait, j'ai une vie plutôt en ce moment. Une vie où il y a tout qui s'entremêle, qui s'entrechoque, qui fait des étincelles, qui fonctionne, hein, ça fonctionne, donc c'est bien, mais non, je n'ai pas d'équilibre à proprement parler vie pro, vie perso. Le seul équilibre entre guillemets dont je pourrais parler, c'est vraiment la liberté en fait de créer son entreprise. C'est aussi la liberté de pouvoir s'octroyer des moments quand tu le décides. Donc en effet, là où j'arrive de toute façon à trouver mon équilibre, c'est que les moments où c'est vraiment pas possible, où je peux vraiment pas me mettre devant un ordinateur, où je ne peux vraiment pas travailler, si c'est un jeudi après-midi, c'est un jeudi après-midi, puis c'est pas grave, et puis je vais pas travailler. Et puis si par contre en me levant le dimanche j'ai plein d'idées, j'ai l'énergie et je me sens d'y aller, là je peux travailler pendant 6 heures le dimanche, et c'est bon, ce que tu peux faire aussi dans une vie professionnelle en réalité, mais je vais pas bosser cet après-midi, tu vois, tu te vas pas trop dire à ton boss, non, en fait, cet après-midi, je le sens pas, non, je rattraperai un week-end, t'inquiète, mais donc voilà, mais sinon, il n'y a pas, je me pose même pas la question, en fait, de l'équilibre en ce moment entre vie pro et vie perso, la question se pose pas, trop tôt.
Est-ce que tu as un nouveau conseil à donner
Bah en fait, ouais, le conseil qui est assez bateau, que moi, on m'avait beaucoup dit et que je me disais, ouais, super, c'est hyper bateau, ça va, voilà. C'est savoir s'entourer des bonnes personnes, en fait. Ne pas avoir peur dans les problématiques très particulières d'aller taper à des portes et de parler à des gens qui sont experts en la matière. Déjà parce qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui veulent aider. Sans attendre rien en retour et qui ont envie de partager leur expérience et qui le feront s'ils ont le temps pour, qui le feront vraiment de façon très 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 sympa.
Ouais.
Et puis en plus, ça fait vraiment 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 avancer les réflexions, gagner du temps parce que quand on réfléchit tout seul dans sa tête, on peut arriver à une conclusion, mais c'est hyper long en fait.
Ouais.
Et c'est des demi-conclusions.
Ouais.
Donc ouais, faut pas avoir peur, faut pas avoir peur de solliciter des gens. De toute façon, et en fait, c'est un peu ce que tu disais. Au pire, on te dit non.
Ouais.
C'est
au pire, on te répond. Ou on te dit non, ou on te répond pas.
Oui, voilà. Ouais. Donc c'est, ouais.
Ouais. D'ailleurs, tu vois, ça me fait penser quand j'étais en dernière année d'école de commerce, il fallait faire un mémoire et j'avais sollicité, en fait, je sais plus exactement quelle était la thématique, mais c'était dans l'univers du luxe et le marketing, enfin, un truc comme ça, et la création d'entreprise. Et j'avais sollicité, en fait, j'avais identifié des gens qui avaient créé des boîtes dans cet univers-là. Et il y avait des gens, alors, il y avait des gens que je connaissais dans mon entourage proche, mais d'autres, mais que je n'avais, enfin, je pense notamment à un monsieur qui avait une boutique dans Paris. Enfin, on n'avait aucun lien l'un à l'autre, tu vois.
Ouais.
Je me rappelle, j'avais pris mon téléphone où j'avais trouvé son mail, j'avais envoyé un mail en disant voilà, j'aimerais vous solliciter dans le cadre de mon mémoire il était en fait les gens ils aiment aider en fait, c'est ce qu'il faut, ouais. Ça les valorise en fait.
Bah c'est ça, en fait je pense qu'il y a une partie très égo, enfin qui touche à l'ego, qui est que tu as envie aussi de raconter ton histoire et qui du coup tu racontes ton expérience qui peut bénéficier aux autres. Et puis oui, les gens malgré ce que je peux dire parfois, je crois qu'il y a quand même pas mal de gens sympas en fait,
tu vois, ouais, carrément.
Qui ont envie d'aider les autres, donc ouais, faut pas hésiter, faut...
Après, tu vois, c'est ce que disait Mathieu Torder, c'est que, je crois que c'est Mathieu Torder qui disait ça, il disait qu'en fait, qu'il faut absolument pas hésiter à solliciter les gens parce qu'en fait, au final, les gens sont heureux, en fait, de pouvoir aider. Mais l'idée, c'est de ne pas poser des questions que tu peux trouver sur Google. Et qu'en fait c'est pas contacter les gens entre guillemets par fainéantise parce que c'est plus rapide de trouver la réponse en contactant la personne, c'est quand même de faire des recherches et ouais. Puis bon, bah voilà, et si à un moment comme on dit à Marseille, à un moment donné tu bloques, solliciter l'expertise, tu vois, enfin moi je suis hyper heureuse de pouvoir répondre aux personnes qui me sollicitent, mais parfois tu vois quand il y a des gens qui me disent bah tiens j'aimerais bien échanger, enfin en gros, raconte-moi ton histoire. Bah, avant, tu vois, je le faisais. Maintenant, bah, j'avoue que j'ai de moins en moins de temps et qu'il faut que je priorise. Bah, je dis, bah voilà, écoutez tel podcast. Vous avez écouté les coulisses. Vous avez tout. Mais je pense, ouais, le vrai, enfin, l'enjeu, c'est aussi en effet de dire si les gens, enfin, si t'as les gens qui sont super sollicités, de quand même de préparer un peu le truc pour pouvoir favoriser les chances qu'on dise.
Bah ouais, qu'on dise oui, quoi. Même pour toi, hein, si t'as, tu vois, je prends typiquement l'exemple d'un business plan. Ouais. Si tu sollicites un expert comptable pour bosser sur un business plan d'entreprise, mais qu'avant ça, t'as même pas commencé à écrire ton business plan, bah franchement c'est naze. En effet, tout ce qui va te donner comme information, c'est tout ce que tu trouves sur Google ou autre moteur de recherche ou n'importe quel bouquin, n'importe quel cours, ouais, de création d'entreprise, enfin voilà, ça ne sert à rien. Par contre, si tu as déjà passé moult heures sur ton business plan, que tu as des questions précises, des choses que tu te rends compte, dont tu te rends compte que tu ne comprends pas vraiment, ouais, bah là tu
fais pas la même approche, ouais.
Non, bah ouais. Donc oui, je te rejoins complètement là-dessus. Ouais. En effet, tu sollicites pas les gens pour avoir des témoignages et savoir comment ça s'est passé pour faire gagner du temps.
Ça dépend presque ce que tu cherches comme information, mais si l'information elle est déjà
sur le web, déjà disponible, c'est, oui, c'est ça. Rien à appeler les gens pour leur demander. Ouais,
ça, après, c'est écouter ça et te dire bah tiens, par rapport à ça, j'ai des questions en plus, ouais, mais.
Oui, ou des choses très concrètes, un point très précis. Enfin, ouais, bien sûr.
C'est surtout qu'aujourd'hui, on a quand même une chance extraordinaire, c'est que il y a quand même une multitude de choses qu'on trouve sur Internet qui est quand même, enfin, c'est une personne qui m'avait dit ça en me disant, mais en fait, aujourd'hui, tu peux apprendre n'importe quel métier sur le web, quoi. Enfin.
Pratiquement, ouais. Ah ouais. Bah, en tout cas, t'as tous les basiques, en effet, de ça. Et après, tu vois, si, encore une fois, je reprends l'exemple dans lequel moi je suis actuellement, la recherche de financement.
Ouais.
Sur l'Internet, tu as toutes les réponses. Mmh. Cependant, c'est tellement,
oui, après, énorme,
que tu vois, c'est là où tu as besoin de l'expérience de quelqu'un qui va te dire non, là, vu où t'en es, vu ce que tu recherches, le financement dont tu as besoin, c'est plutôt de ce type-là, tu vois.
Mais tu auras pris en amont les informations de savoir qu'il existait telle chose, quoi.
Bien sûr, exactement. Mais ouais, donc du coup, le conseil, c'est ne pas hésiter à toquer aux portes.
Ouais, c'est clair. Avant qu'on se quitte, à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi ?
Moi, c'est, là, tu vois, cette question aujourd'hui, elle est compliquée parce qu'en fait, je sais pas. Je sais pas parce qu'en fait, ces derniers mois, ça a été quelque part des mois assez solitaires. Bon, avec toujours, bien sûr, Benoît qui est là, mais comme tu disais, il a aussi son job et en plus un nouveau job, donc voilà, c'est compliqué. En plus, c'est des mois qui ont été vraiment très particuliers avec le contexte Covid, etc. Voilà, ces interactions sociales qui sont passées de plein à pas grand-chose, qui, comme je te disais, moi, me touche vraiment très particulièrement et qui, enfin, en tout cas, me rendent la vie dure. Je sais pas là. J'ai personne à qui dire merci aujourd'hui parce qu'en fait j'ai plus trop peu de monde. Seule personne à qui je pourrais dire merci pour ce qu'elle m'apporte ces derniers temps, c'est celle dont j'aimerais qu'on parle dans 3 mois, mais. Mais là pour le moment sur ces 6 derniers mois, tu sais quoi, à moi.
C'est exactement ce que j'allais te suggérer en disant j'allais te laisser finir ta phrase et j'allais te dire si tu me permets, il y a une personne à qui je pense.
ouais, et encore, tu vois, franchement, je suis tellement passée par, mais je pense comme beaucoup de monde en fait, sur cette fin d'année, par des phases vraiment dures, enfin de fatigue extrême, de voilà. Que je me suis trouvée nulle aussi dans ces phases-là. Mais ouais, peut-être que c'est moi qu'il faut que je remercie un peu là, sur ces 6 derniers mois et que et que je me dise que c'est bien, en fait. Les choses, elles ont continué, qu'on a avancé, que Little Pop avance aussi et que a priori, c'est un peu grâce à moi.
Un petit peu, vraiment léger. Hein. Ouais.
Ouais, un chouille.
Si... On va, avant juste qu'on se quitte, t'en étais où il y a un an ? Le 14 janvier 2020.
Écoute, le 14 janvier 2020, donc ça devait être le début des soldes de l'hiver 2020. Et en fait, ça a été le premier boom qu'on a connu chez Little Pop. Où d'un seul coup, il y avait plein de commandes. Alors, boom et plein de commandes, je remets ça dans le contexte d'il y a un an, parce qu'en fait, quand je regarde les chiffres aujourd'hui, c'est tout petit, mais c'était un premier boom hyper positif. Donc, du coup, j'étais à fond. J'étais à fond sur mes commandes, à faire tout le travail de conception, d'écouter clients, de tout ça. Donc c'était chouette, c'était vraiment le premier, tu sais, le petit coup de d'accélérateur là, le petit boost, premier petit coup de nitro de Little Pop.
Et par rapport, sans avoir forcément les chiffres, par rapport à janvier 2020 en termes de commandes, là donc tu disais bon, le mois de janvier est pas extraordinaire. Il est supérieur à ce que tu as eu en janvier 2020 en termes de commandes là,
là, actuellement, je pense que je suis à mi-janvier 2021 à ce que j'ai fait au total sur le mois de janvier 2020. Donc, quand tu en es à mi-janvier, les soldes n'ont pas commencé. Ouais. Et on a fait à peu près exactement le même chiffre qu'il y a un an en 2020. Donc, oui, c'est tout petit.
Du coup, de prendre conscience de ça, qu'est-ce que ça t'évoque ?
Ben c'est en fait ça paraît très proche comme temporalité, janvier 2020, et en même temps, tu te dis, ouais, il s'est passé tellement de choses. Alors, il s'est passé tellement de choses pour Little Pop, et en plus, il s'est passé tellement de choses dans l'univers, enfin, dans l'univers, dans le sur monde. La Terre, ouais. Dans le monde, depuis, enfin, tu vois, en janvier 2020, moi, en fait, ça me donne comme sensation de la naïveté. Tu vois, d'avoir été enfant à ce moment-là et d'avoir beaucoup grandi depuis, d'avoir passé l'enfance, l'adolescence et bim, là, c'est bon, je crois que je suis jeune adulte en fait. Tu vois, c'est vraiment ça.
Rappelle-toi, t'as 18 ans. Hein.
C'est vrai. Ouais, alors là, du coup, je suis peut-être plus, tu vois, sur le 20-23 ans. Tu vois, c'est, okay. Mais c'est, ouais, c'est ça. Ça me donne ça comme sensation.
Et est-ce que ça t'évoque
Ouais, pardon, mais même, tu vois, par rapport à ce qui s'est passé, je me dis, mais l'année dernière, à cette époque-là, on était comme des débiles à regarder ce qu'on commençait à entendre en Chine, en se disant, ouais, mais c'est quoi encore ce virus qui est en Chine? Genre, il arrivera jamais chez nous. Bon, bah, 2 mois après, on était confinés, quoi. Donc, ouais, ça paraît très, très naïf comme
ça. Mais par rapport à Little Pop, est-ce que tu aurais imaginé le 14 janvier 2020 que le 14 de janvier 2021, en 15 jours, tu aurais fait le chiffre de ce mois de janvier qui était un mois de janvier extraordinaire à cette époque-là?
Bah, non, mais pas du tout. Pas du tout, parce qu'en plus, tu vois, c'est vraiment, et ça, c'est aussi une maturité que j'ai prise depuis, mais quand je travaillais sur des plans à ce moment-là, c'est pas que j'y croyais pas, j'avais envie d'y croire, mais déjà j'avais aucune base sur laquelle fonder ma conviction. Et puis en plus, quand on parle de syndrome de l'imposteur, du manque de confiance et tout ça, j'étais vraiment pleine balle là-dedans, sans me rendre compte que en fait c'est pas grave, c'est pas ça qui empêche d'avancer. Donc en fait, je me disais plus, en fait j'ai fait exactement la même chose que quand je suis partie en école d'ingénieur. Je me suis dit, je vais me lancer. Pour voir, et ce qui va sûrement se passer, c'est que je vais me planter. Bon, voilà. Donc, je pense qu'il y a un an, j'étais encore dans cette optique-là, même si je faisais tout pour y arriver. Je me disais, bon, allez, je mets tout, et puis comme ça, je vais me planter, et puis j'aurai essayé. Et ben voilà. Donc, non, j'imaginais pas du tout ça.
Donc, ça, aujourd'hui, là, ça donne quoi comme émotion?
Encore une fois, tu vois, moi cette impression d'avoir grandi, et c'est quelque chose, si je le dis aussi souvent, c'est parce que c'est quelque chose qui est très très important pour moi. Je me suis beaucoup depuis très jeune posé des questions sur le sens de la vie, qu'est-ce qu'on fait là, tout ça, ça a été très très prégnant, très difficile comme question pendant très longtemps. Et en fait, la seule réponse à laquelle je suis arrivée et qui me convient, c'est de dire, il n'y a aucune raison pour laquelle on est là. Par contre, l'intérêt qu'a la vie, c'est d'apprendre et de grandir. Et de, tu vois, de dans la tête, devenir une meilleure personne. Et c'est pour ça que je disais qu'avoir des choses négatives qui se passent dans la vie, en fait, c'est quelque chose de très bien, parce que c'est comme ça qu'on grandit, en fait. Parce que sinon on reste tous des bébés enfants gâtés. Et du coup, là, de me rendre compte que j'ai vraiment beaucoup progressé à ce niveau-là, intellectuellement parlant, ça me fait très plaisir. Je suis hyper contente. C'est, tu vois, peu importe la suite de ce qui se passe, c'est super.
Donc, du coup, tu peux t'auto-féliciter.
Bien joué. Oui, du coup, je peux sûrement m'auto-féliciter, en effet. Même si, encore une fois, je ne l'ai pas fait tout seul, mais quand même, c'est oui. Ouais. Oui, c'est bien. C'était après, en fait une bonne année 2020, tu vois.
Bah ouais. Oui. Après, moi, je rajouterais par rapport à ce que tu disais sur le sens de la vie, entre guillemets, c'est que je suis assez convaincue quand même qu'on a tous quelque chose à apporter à cette terre et aux autres, et que quand on est à sa place, clairement on apprend, on est bien, et puis on est bien aussi parce que on apporte quelque chose au monde, parce que si on apprend entre guillemets que pour soi, on n'est pas, enfin on peut pas être forcément, enfin non, c'est pas forcément, c'est sûr qu'on peut pas être bien en fait.
Ouais, bah oui, je suis complètement d'accord avec ça, en effet. De toute façon, une fois que t'es à la bonne place et que toi-même tu te sens bien, tu rayonnes ces choses-là et tu fais du bien aux autres êtres humains qui t'entourent. Et puis on est des êtres sociaux, je sais pas quoi.
Sociaux, ouais.
Du coup, on a besoin de ces interactions. On vit en société depuis a priori le début de notre existence. Ouais. Je pense que c'est pas pour rien en fait. C'est parce qu'on a besoin des énergies des uns des autres.
Ça a été prouvé par pas mal de personnes en termes au niveau scientifique et puis même sur des études des endroits où les gens sont le plus heureux au monde, que l'interaction sociale est un élément absolument indispensable à l'équilibre et au bien-être des personnes. Même ça a été prouvé que tu peux, en fait, t'as la possibilité de te cramer des neurones et de t'en régénérer. Et le fait de ne pas avoir d'interaction sociale, et d'être stressé, de pas faire de sport, enfin, il y a un ensemble de choses qui font que ça te crame les neurones. Et donc, bah, si tu, enfin, à contrario, si tu développes tout ça, ça te génère des neurones et donc t'es beaucoup plus performant, pas au sens performance comme on peut l'entendre, mais être.
T'es en forme, quoi.
Ouais, t'es en forme et t'arrives à décupler ton énergie, te permet de faire de belles choses.
Ouais.
Et, ouais.
Ah bah oui, du coup ça explique beaucoup la fin de l'année dernière, mais
c'est ça. Ouais.
Mais oui, c'est clairement ça. Donc bon, après c'est vrai qu'on aimerait tous pouvoir se passer des énergies négatives que peuvent rejeter certaines personnes, mais en tout cas, réussir à être bien et à pouvoir du coup rayonner ça aux autres autour de moi, si un jour on me dit ce genre de choses, tu vois, je pense que c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Donc là, le fait d'avoir grandi cette année-là et de me sentir moi de mieux en mieux et plus je comprends mieux les choses, j'ai l'impression, parce qu'il y a aussi cet aspect-là, moi, qui m'intéresse beaucoup, comprendre les choses. Ouais. Et du coup, plus j'y arrive, plus ça ira.
Après, il y a un truc qui est hyper intéressant. Alors, quand je le dis, je sais que c'est très, très difficile parce que je l'expérimente et que j'ai toujours du mal encore avec certaines personnes à vraiment en tirer parti. On dit que l'autre est le miroir de soi. Et donc, en fait, si quelque chose t'énerve, tu te sens agressé par quelqu'un, c'est qu'en fait, ça chatouille quelque chose en toi. Et qu'en fait, tu vois, si tu regardes dans une même situation, tu vas voir que Benoît, il y a une situation qui va l'énerver au plus haut point et toi, tu vas lui dire « Mais franchement, mais je comprends pas pourquoi tu t'énerves de ce truc. Enfin, ça n'a aucun sens. Mmh. » Et à contrario, tu pourras t'énerver de truc et lui va te regarder en mode « Mais pourquoi ?»« Mais détends-toi, cool. » Ouais. Et en fait, c'est hyper intéressant de chercher à comprendre en fait pourquoi toi, ça t'affecte et comprendre qu'est-ce qui est affecté en toi, en fait, parce que ça permet justement d'apprendre à mieux se connaître aussi, quoi.
Ouais, ça permet de mieux se connaître et en plus, j'imagine que ça doit permettre aussi de mieux répondre à la personne en face, en fait, et de pas tomber dans des conflits complètement stériles.
C'est ça.
Qui apportent rien à personne ou qui font juste du mal. C'est vrai que quand on arrive à prendre ce recul-là, c'est assez bien. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'essaye aussi de faire et je l'ai fait d'ailleurs très récemment sur une situation un peu compliquée et c'est dur. Hein, c'est dur de réussir parfois.
Surtout quand... Encore plus quand ça touche des personnes très proches et parce qu'autant c'est un mec dans la rue qui te klaxonne et qui t'insulte, c'est pas pareil que quand c'est des gens, quand c'est certaines,
ceux qui font partie de tes cercles,
très proches, c'est sûr.
C'est clair.
Bon merci beaucoup Nathalie. Bon, le prochain, on verra où est-ce qu'on le fera, fera notre prochaine interview. J'espère ensemble.
Ouais, c'est clair. Mais attends, c'est dans 3 mois, c'est quoi? C'est avril? Ouais, allez. Ouais. On peut être optimiste.
Ouais, ça serait chouette. Oui. Bon, en tout cas, un grand merci pour ton magnifique témoignage. Si vous avez des questions pour Nathalie, pour notre prochain rendez-vous, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram ou sur charlotte@pourquoipasmoi.co et puis ou sinon les envoyer à Nathalie qui me les transférera.
Merci Charlotte.
Merci.
J'espère que notre troisième rendez-vous vous aura plu. N'oubliez pas que Nathalie vous offre 10% de remise sur votre première commande. Ça serait dommage de ne pas en profiter. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi ?